Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Villon à ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du lundi 25 septembre 2023. La grève historique à Hollywood ici aux États-Unis touche à sa fin. Un accord de principe ayant été trouvé entre scénaristes et studios. Sur le continent, la junte militaire au pouvoir au Mali a annoncé aujourd'hui que l'élection présidentielle prévue en février subirait un léger report pour des raisons techniques. Après la décision de Paris de rompre sa coopération militaire avec le Niger, Washington dit étudier toutes les mesures concernant la présence de ses troupes.
Beaucoup de gens, que ce soit des citoyens lambda, mais pire, même certains analystes militaires rapportent que cette opération militaire, elle est de nul effet sur la progression du terrorisme.
Ibrahim Monzo Diallo, analyste et journaliste à AI Info, nous livrera ses impressions dans la partie magazine. Inondation en Libye, le procureur donne la détention de 8 responsables. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Les scénaristes d'Hollywood, dont la grève paralyse l'industrie depuis presque 5 mois, ont annoncé dimanche avoir conclu un accord avec les studios qui pourrait leur permettre de reprendre le travail. Les précisions de John Lydon.
Nous sommes parvenus à un accord de principe sous réserve de la formulation finale du contrat, indique la lettre que le syndicat des scénaristes d'Hollywood a envoyée à ses membres. Nous pouvons dire avec une grande fierté que cet accord est exceptionnel, avec des gains significatifs et des protections pour les scénaristes dans tous les secteurs d'activité, s'est félicité le syndicat. La lettre ne donne pas de précision sur l'accord, mais indique que les détails sont en cours d'élaboration et que le dernier mot reviendra aux membres. Pour l'heure, le mouvement de grève est juste suspendu à partir d'aujourd'hui, souligne le syndicat. Des milliers de scénaristes des cinémas et des télévisions ont déposé leur plume au début du mois de mai pour réclamer une meilleure rémunération pour la création d'émissions à succès et une protection face à l'intelligence artificielle.
Et le président américain a salué aujourd'hui cet accord de principe conclu par le syndicat des scénaristes d'Hollywood avec les studios. Joe Biden a dit que l'accord comprenait des assurances quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle, révélant ce que le résultat n'avait pas été facile à obtenir. Cela dit, le président américain se rend demain mardi dans le Michigan pour manifester son soutien à la grève des salariés de l'industrie de l'automobile. Près de 12 000 travailleurs sont en grève dans 3 usines des Big Three dans le Michigan, l'Ohio et le Missouri. Ils ont débrayé à l'appel de leur syndicat qui demande une augmentation des salaires et une plus grande sécurité de l'emploi alors que le secteur effectue sa transition vers les véhicules électriques. La Russie a accusé ce lundi les autorités arméniennes de chercher à détruire les relations bilatérales entre les deux pays, dénonçant une énorme erreur en pleine crise au Nagorno-Karabakh, dont Erdogan rejette en partie la responsabilité sur Moscou. Dimanche, le premier ministre arménien Nikol Pachinian a implicitement reproché à Moscou son manque de soutien en qualifiant d'inefficace les alliances actuelles de son pays, notamment avec la Russie. L'armée azerbaïdjanaise a remporté la semaine dernière une victoire militaire éclair contre la République autoproclamée du Nagorno-Karabakh, une région en majorité peuplée d'Arméniens rattachée en 1921 à l'Azerbaïdjan par le pouvoir soviétique. La Corée du Nord a décidé d'autoriser l'entrée sur son territoire de ressortissants étrangers. La Corée du Nord s'est largement coupée du monde extérieur depuis 2020, lorsque le pays a fermé ses frontières, y compris à ses propres ressortissants, en raison de la pandémie de COVID-19.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité africaine au Mali, les autorités ont annoncé le report de la présidentielle prévue en février 2024 est censé marquer le retour des civils à la tête du pays. Il s'agit d'un nouvel ajournement par rapport aux engagements pris sous la pression de la CDAO. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Les dates initialement retenues du 4 et du 18 février 2024 pour les deux tours de la présidentielle connaîtront un léger report pour des raisons techniques, a affirmé le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement. Parmi ces raisons techniques évoquées, des facteurs liés à l'adoption d'une nouvelle constitution et à la révision des listes électorales, un litige avec une société française, IDEMIA, impliquée selon les autorités dans le processus au niveau du recensement. Le gouvernement dit que les nouvelles dates seront communiquées ultérieurement. Le texte ajoute que le gouvernement décide d'organiser exclusivement l'élection présidentielle pour sortir de la transition, affirmant que les autres élections feront l'objet d'un autre chronogramme qui sera établi par les autorités qui seront élues. Les militaires s'étaient engagés à céder la place à des civils élus après des élections présidentielles et législatives, initialement programmées en février 2022, avant d'y renoncer. La CEDEAO leur a alors imposé des sanctions début 2022 avant de les lever fin juillet de la même année après un nouvel accord fixant la présidentielle à février 2024.
Après plusieurs semaines de bras de fer entre la France et le Niger, le président Emmanuel Macron a annoncé hier le retrait des soldats français d'ici la fin de l'année et le départ de l'ambassadeur français Sylvain Ité-Niamey qui l'exigeait. Salut, une nouvelle étape vers la souveraineté du pays. Le point avec Nani Talani.
Nous célébrons la nouvelle étape vers la souveraineté du Niger. Les troupes françaises et l'ambassadeur de France quitteront le sol nigérien. C'est un moment historique qui témoigne de la détermination et de la volonté du peuple nigérien, indique Niamey dans un communiqué lu à la télévision nationale. La France a décidé de ramener son ambassadeur que Paris refusait jusqu'ici de rappeler et nous mettons fin à notre coopération militaire avec le Niger, a déclaré le président français Emmanuel Macron. Il a indiqué que le retrait des 1500 militaires français serait totalement achevé d'ici la fin de l'année. L'ambassadeur et son équipe étaient dans l'ambassade française, ne bénéficiant plus de l'immunité diplomatique et la France n'avait plus d'option pour se maintenir au Niger. Après l'annonce de la France, le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a déclaré que les États-Unis vont étudier toutes les mesures futures concernant leur présence militaire au Niger, tout en donnant une chance à la diplomatie.
En RDC, la justice a rejeté aujourd'hui une nouvelle demande de libération provisoire du journaliste Anis Boujakera, a indiqué sa défense, qui a maintenant l'intention de demander la fixation de l'affaire pour l'ouverture du procès. Monsieur Boujakera, directeur adjoint de publication du site congolais d'information actualité.cd, a été arrêté le 8 septembre. Il est accusé de faux en écriture, falsification des sceaux de l'État, propagation de faux bruits et transmission de messages erronés et contraire à la loi, a détaillé son avocat, maître Charles Mouchizi. L'Ouganda a annoncé aujourd'hui enquêté sur des témoignages accusant une ex-responsable néo-zélandaise de la Cour pénale internationale d'avoir financé la guérilla de l'armée de résistance du Seigneur, selon un communiqué publié par un avocat représentant d'anciens enfants soldats de l'armée de résistance du Seigneur. De nombreuses victimes affirment qu'entre 2006 et 2017, Brigitte Inder a financé Joseph Kony, le leader de la LRA en Ouganda. Brigitte Inder, qui fut conseillère spéciale auprès de l'ex-procureur de la CPI, Fatou Bensouda, a démenti les accusations, les qualifiant de fracassantes et fausses. L'élection présidentielle en Égypte aura lieu en décembre et non au printemps 2024, comme le permet la Constitution. Les électeurs iront aux urnes les 10, 11 et 12 décembre, a annoncé ce lundi le patron de la commission électorale, le juge Walid Hassan Hamza. Les candidatures devront être déposées en octobre. La campagne électorale aura lieu du 9 au 29 novembre. L'actuel président Abdel Fattah al-Sissi n'a pas encore officiellement annoncé sa candidature. Le procureur général de la Libye a ordonné la mise en détention de 8 fonctionnaires dans le cadre d'une enquête sur la rupture des 2 barrages ayant entraîné les inondations meurtrières de Derna. La catastrophe survenue au début du mois a fait des milliers de morts. Alexandrine Ollognon nous en dit plus.
Parmi les 8 Libyens dont le procureur a ordonné le placement en détention provisoire figurent 7 personnes occupant ou ayant occupé des postes à responsabilité au sein du département des ressources hydrauliques ou celui de la gestion des barrages en Libye. Le maire de Derna, Abdulmonem Al-Gaïti, démis de ses fonctions avec le reste du conseil municipal après le drame, fait également partie des personnes concernées. Les fonctionnaires ont été interrogés sur les allégations selon lesquelles la mauvaise gestion et la négligence ont contribué à l'effondrement des barrages qui se sont rompus le 11 septembre après avoir été submergés par la tempête Daniel. Les habitants de Derna dans l'est de la Libye, dont des quartiers entiers ont été emportés par les eaux, ont protesté le 18 septembre pour exiger que les autorités rendent des comptes. Le bilan des inondations est estimé entre 4 000 et 11 000 morts.
La dengue et les diarrhées aiguës connaissent une augmentation alarmante au Soudan, où la guerre a entraîné la fermeture de 100 hôpitaux, alerte des médecins ce lundi, appelant à endiguer une propagation catastrophique ayant fait des centaines de morts. L'état le plus durement touché est celui de Guédaref, frontalier de l'Éthiopie, où la vitesse de propagation de la dengue est catastrophique et a déjà fait des centaines de morts et des milliers de contaminations, prévient le syndicat des médecins.
Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
Le Kenya a prolongé jusqu'en décembre 2024 un accord de fourniture de pétrole avec trois compagnies basées dans le Golfe. Nairobi abandonne ainsi un système d'appel d'offres qui permettait aux entreprises locales de soumissionner pour importer du pétrole chaque mois. Cet accord permet au Kenya de réduire le coût du transport du pétrole et la prime versée aux fournisseurs, a déclaré Daniel Kipto, le chef de l'autorité de régulation de l'énergie et du pétrole. Le projet de gaz naturel liquéfié de Total dans la province du Cabo Delgado au Mozambique pourrait être remis sur les rails dans les 18 prochains mois, a déclaré le président de la BAD, Akinwumi Adesina. Les troupes de la SADC ont réussi à venir à bout de l'insurrection djihadiste qui avait forcé Total à déclarer la force majeure sur ce projet de 20 milliards de dollars en avril. Terminons par la Banque mondiale qui a approuvé 700 millions de dollars supplémentaires pour développer le programme Agile qui veut améliorer les possibilités d'éducation secondaire pour les filles au Nigeria. Le projet sera étendu à 11 États contre 7 États actuellement. Les bénéficiaires seront des filles non scolarisées, mariées ou handicapées.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean Rouget, bonsoir à tous.
Football pour commencer avec la CAN Maracana 2023. On connaît désormais la composition des groupes.
Oui, le tirage au sort a eu lieu hier en direct à la télévision nationale du Bénin. Chez les seniors, le Bénin hérite de la poule A en compagnie du Mali, du Cameroun, du Gabon et de la Guinée-Bissau. La poule B est composée de la tenante du titre, la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Togo et du Sénégal. Et le groupe C, le Burkina Faso, le Niger et deux pays invités, le Canada et les États-Unis. Dans la catégorie des super seniors, la poule A comprend le Bénin, le Burkina Faso, le Togo, le Canada et la France. Et puis la poule B, le Mali, tenant du titre, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Cameroun et le Niger. La cérémonie d'ouverture prévue ce lundi est finalement décalée à demain, mardi.
Quelques matchs en retard du deuxième tour préliminaire des matchs interclubs de la CAF ont été joués ce week-end.
En Ligue des Champions, Al Ahly du Caire prend une sérieuse option sur la qualification en allant battre sur le score sans appel de 3-0 les Éthiopiens de Saint-Georges. En Coupe de la CAF, l'USM Alger, vainqueur de la Super Coupe d'Afrique, a ramené un nul précieux du Maroc devant le Fus de Rabat. Les matchs retour auront lieu à la fin de cette semaine.
Du cyclisme à présent avec l'épilogue du Tour de Côte d'Ivoire.
Abou Sanogo a fini maillot jaune, l'Ivoirien de 28 ans a remporté 3 des 7 étapes de la course. Il devance au classement général les Burkinabés Moukaïla Rawende et Haruna Ilboudo. A noter que c'est le Malien Yaya Diallo qui a remporté la dernière étape courue entre Bongouanou et Adzopé.
Athlétisme avec le marathon de Berlin couru ce week-end.
L'Éthiopienne Tix Assefa a pulvérisé le record du monde féminin du marathon en 2h11'53, abaissant la précédente meilleure marque de la Kenyane Brigitte Kosgei de plus de 2 minutes. À 26 ans, Assefa devient ainsi la première athlète sous les 2h12. Elle signe à Berlin sa deuxième victoire consécutive après son succès l'an passé. Chez les hommes, Eliud Kipchoge a remporté son cinquième marathon à Berlin en 2h02'42. À 38 ans, le Kenyan devient le marathonnier le plus titré à Berlin avec 5 victoires, 2015, 2017, 2018, 2022 et désormais 2023. Un de plus que l'Éthiopien Haïlé Gebrselassie. Kipchoge se trouve à un peu plus de 10 mois du marathon des Jeux Olympiques de Paris en 2024, où il tentera de décrocher l'or pour la troisième fois après Rio 2016 et Tokyo 2021, ce qu'aucun coureur n'est parvenu à réaliser dans l'histoire.
Page de sport VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Washington va étudier toutes les mesures futures concernant sa présence militaire au Niger après l'annonce de la France du retrait de ses troupes du pays d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin. Le président Emmanuel Macron a annoncé dimanche le retour à Paris de l'ambassadeur de France à Niamey et le retrait du Niger des troupes françaises. Cette décision intervient après un bras de fer de plusieurs semaines entre Paris et Niamey. Yacouba Ouédraogo a joint à Agadez, dans le nord du Niger, Ibrahim Monzo Diallo, journaliste à Aïr Info.
Niamey et Aliès, les régions du Niger sont à Aliès, mais ce qu'il faut dire, c'est que cette affirmation de Macron signifie que les panafricanistes, où qu'ils sont, ont gagné. Parce qu'il faut le dire, c'était un bras de fer coriace, parce que Emmanuel Macron tenait mordicus à rester au Niger.
5500 soldats au Niger aidaient dans la lutte contre le terrorisme. Comment Niamey va se comporter pour le vide entre griffes dans les jours à venir?
Beaucoup de gens jettent la pierre sur cette coopération militaire française avec le Niger. Beaucoup de gens, que ce soit les citoyens lambda, mais pire, même certains analystes militaires rapportent que cette coopération militaire, elle est de nul effet sur la progression du terrorisme. Et vous comprendrez avec moi que les Nigériens ont tous été désagréablement surpris de voir que depuis le transvasement de Barkhane à Niamey, c'est-à-dire du Mali à Niamey, il n'y a eu que des attaques. Mais les terroristes n'ont fait que prendre de l'ampleur. Ils ont commencé à gagner des espaces au Niger, notamment des villages qui sont frontaliers avec le Mali. Et ça, c'est vrai, au temps du régime de Chu, cette information était tue.
Ce retrait annoncé aura peut-être un impact sur l'option militaire de la CEDEAO de faire partie les putschistes du pouvoir. Est-ce que cela va ralentir les dirigeants ouest-africains, cette annonce de Macron?
Toute l'opinion nationale, surtout nigérienne, et même panafricaniste, savait pertinemment que la CEDEAO était dans un agenda qui n'était pas le sien, qui répondait exactement à ce que la France, qui vient de quitter le Niger, voulait que ça soit. Après le désengagement du tuteur Emmanuel Macron, les chefs d'État va-t-en-guerre de la CEDEAO vont aussi se calmer. Et je suis sûr, dans les prochains jours, nous verrons des délégations du Bénin, du Sénégal, du Nigeria, de la CEDEAO en un mot, vous revenir, vouloir établir les bons termes avec les autorités nouvelles qui sont au Niger.
Monsieur Diallo, vous dites des chefs d'État va-t-en-guerre. Je précise que la CEDEAO conserve aussi l'option diplomatique. Alors, il y a le ministre de la Défense des États-Unis qui a réagi, Lloyd Austin, disant que les États-Unis vont envisager les options futures suite au retrait de la France. On sait que les Américains interviennent également au Niger. Comment vous voyez la coopération entre le Niger et les États-Unis pour la suite après le retrait de la France?
Pour les Américains qui sont au Niger, ils sont ici à côté de moi à Agadez. Ils ne sont pas là pour les beaux yeux des Nigériens. Tout le monde sait que tous les pays qui sont au Niger ont un agenda caché. Ils ont aussi des intérêts à privilégier les intérêts de leur pays. Si aujourd'hui, on a constaté tranquillement le dégagisme de la France du Niger, eh bien, il faut le dire que ce dégagisme a été encouragé en sourdine par aussi une diplomatie américaine. Ça, c'est mon opinion à moi, mais c'est sûr que le Niger ne va pas rester orphelin des militaires français. D'autres militaires qui seront beaucoup plus certainement respectueux de la souveraineté du Niger, qui seront beaucoup plus coopératifs, vont venir au Niger et peut-être prendre la place laissé vide par la France.
Ibrahim Monzo Diallo, analyste et journaliste à Aïr Info.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Le Bénin est déjà lourdement touché par l'annonce de la fin des subventions sur le carburant. Au Nigeria voisin, les stations-service sont débordées. Les usagers fuyant la montée en flèche du prix de l'essence, vendu en contrebande aux abords des routes, ne savent plus où donner de la tête. Le reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Près de 40 décès, dont 2 bébés et une vingtaine de blessés. L'essence de contrebande vient encore de frapper, laissant de nombreuses familles dans le désespoir. Les flammes ont fait d'énormes dégâts. Les parents et proches des victimes ne s'en reviennent toujours pas.
Bon, moi j'ai perdu un petit frère.
En recoupant les informations, il paraît qu'un véhicule était en train de faire ses manœuvres quand subitement il y a eu une explosion. Et cette explosion a embrasé tout le reste.
Face à l'étendue des dégâts, un balai de personnalité a été observé tant sur le site qu'au chevet des rescapés. Marie-Odile Lapotre-Sou est le préfet du département de l'ONU.
C'est un sentiment de consternation qui m'anime et regard aux pertes que nous avons enregistrées aujourd'hui du fait de l'essence relatée. C'est triste et c'est le département qui perd une partie de sa population. Une activité qui conduit à la calcination des filles et fils de ce pays, je pense que c'est le moment plus que jamais de repenser cette activité-là.
Mais comment est-on arrivé à l'implantation d'un tel entrepôt en pleine agglomération? Le maire de la ville joue la carte de la prudence et souligne que l'activité qui s'y mène est connue de tous, même des autorités.
Nous avons constaté avec amertume un ensemble de dégâts humains et matériels sur un site qui n'est pas en réalité un site clandestin, parce que c'est un site sur lequel les autorités compétentes viennent fréquemment pour les formalités d'usage en ce qui concerne les formalités douanières. Il n'y a que des motos calcinées, des hommes calcinés et tout le matériel utilisé est hors d'usage.
Diligenté par le gouvernement, le ministre de la Santé peint un tableau assez inquiétant. Benjamin Ompati.
Il faut dire que avec l'intensité de l'incendie, les niveaux de brûlure vont parfois jusqu'à 100% de la surface corporelle touchée. Et je pense que le maximum sera fait pour que nous puissions garantir la vie sauve pour ces cas.
De son côté, le ministre de l'Économie et des Finances pense qu'il est temps de formaliser le secteur rural de Ouadaï.
Ce qui s'est passé aujourd'hui nous montre clairement qu'il y a urgence de changer le mode de commercialisation de ce produit. C'est pour ça que l'année passée, le gouvernement a décidé de commander une dizaine de milliers de mini-stations et d'ici 2024, partout dans le pays, nous aurons ces mini-stations pour permettre à ces acteurs qui restent dans l'activité de le faire dans les conditions de sécurité totale.
Mais les Béninois sont-ils prêts pour une reconversion? Ceux qui s'approvisionnent et qui ne cessent de vanter les mérites de ce type de carburant sont-ils prêts? Autant de questions qui doivent être étudiées avant de changer les dons d'une activité de laquelle dépendent des milliers de personnes. De Cotonou, Ginette Fuadonné pour VOA.
Un influent sénateur américain s'engage dans une nouvelle bataille judiciaire pour sauver sa carrière et éviter d'aller en prison. La justice fédérale a annoncé vendredi une mise en accusation du sénateur démocrate Bob Menendez, président de la puissante commission des affaires étrangères du Sénat. Davantage avec Michel Joseph.
Le sénateur démocrate du New Jersey, Bob Menendez, fait face à une série d'accusations fédérales liées à la corruption. Il est notamment accusé d'avoir accepté des pots de vin pour enrichir trois hommes d'affaires et avantager le gouvernement égyptien tout en aidant à résoudre les problèmes juridiques rencontrés par les associés de sa femme. Damien Williams est procureur fédéral pour le district sud de New York.
Les agents spéciaux du FBI ont exécuté des mandats de perquisition dans la résidence et le coffre-fort du sénateur Menendez et de Nadine Menendez dans le New Jersey. Une fois sur place, ils ont découvert environ $500,000 en liquide dans des enveloppes placées dans les placards. Une partie de l'argent se trouvait dans les poches de la veste du sénateur. Et ce n'est pas tout, les agents ont également découvert beaucoup d'or.
Le sénateur Menendez avait déjà fait face à des accusations de corruption en 2017, mais les procureurs ont abandonné l'affaire après que les jurés ont été incapables de parvenir à un verdict. Le sénateur a nié avec véhémence le nouvel acte d'accusation, mais ce n'est pas une surprise pour Liz Batten, habitante du New Jersey.
Je ne suis pas surprise. Il y a beaucoup de collusion et sa femme est également impliquée. C'est sa deuxième inculpation pour corruption.
Le sénateur Bob Menendez affirme que les accusations sont une attaque politique contre sa carrière.
Des forces en coulisses ont tenté à plusieurs reprises de faire taire ma voix et de creuser ma tombe politique. Je suis convaincu que cette affaire sera résolue avec succès une fois que tous les faits auront été présentés et que mes concitoyens du New Jersey verront la situation telle qu'elle est.
Malgré les dénégations de Menendez, les experts juridiques affirment que les accusations portées contre lui sont sérieuses. Écoutons Adam Kamenstein, ancien procureur fédéral, actuellement associé du cabinet Adams, Dirk Kamenstein.
Il s'agit d'un système de corruption classique. L'acte d'accusation incrimine le sénateur Menendez pour trois chefs d'accusation distincts de complot. En combinant les trois chefs d'accusation, le sénateur Menendez risque une peine d'emprisonnement maximale de 45 ans.
Les experts estiment qu'il pourrait être difficile pour le sénateur Menendez de survivre politiquement à cette inculpation. Quelques heures seulement après l'annonce du procureur, le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a appelé son collègue démocrate à démissionner.
Le gouvernement américain est à moins d'une semaine d'une fermeture si la Chambre des représentants contrôlée par les Républicains ne parvient pas à s'entendre sur une douzaine de projets de loi de finances qui ont jusqu'à présent divisé le parti. Certains républicains sont allés jusqu'à menacer d'éviction le président de la Chambre, Kevin McCarthy. Arash Arabasadi de la VOA nous en dit plus. Le récit est de Gaby Dorsil.
Dans moins d'une semaine, le gouvernement américain fermera ses portes si le Congrès ne parvient pas à trouver un accord sur les projets de loi de finances qui, jusqu'à présent, ont mis en évidence les divisions au sein du Parti républicain. Un groupe de conservateurs d'extrême droite a menacé de se révolter et d'évincer le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, à la suite d'un compromis sur les dépenses conclu entre lui et le président Joe Biden au début de l'année afin d'éviter un défaut de paiement de la dette nationale. Le ministre américain des Transports, Pete Buttigieg, dans l'émission This Week sur la chaîne télé ABC.
C'est parce que les républicains n'arrivent même pas à se mettre d'accord entre eux. N'oubliez pas que Kevin McCarthy, le président de la Chambre des représentants, et le président Biden ont conclu un accord et que cet accord était difficile pour toutes les parties. Il a été pour notre département. Il a fallu réduire certaines choses que nous voulions faire, certains fonds que nous allions utiliser pour améliorer les routes, les ponts et les aéroports. Mais nous l'avons accepté parce que c'était l'accord qui avait été conclu au début de l'année. Et maintenant, ce que nous faisons, c'est de leur demander de respecter cet accord.
Ce même groupe de républicains qui sont membres du parti contrôlant la Chambre des représentants veut des coupes sombres dans les dépenses intérieures ainsi que dans le soutien des États-Unis à l'Ukraine dans sa guerre actuelle contre l'envahisseur russe. La semaine dernière, le président Joe Biden a accueilli son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche après que les deux hommes se sont exprimés lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. M. Biden a promis un soutien continu et inébranlable à l'Ukraine.
Le peuple ukrainien est prêt pour la lutte qui l'attend et les États-Unis vont continuer à se tenir à ses côtés.
Kevin McCarthy a laissé 300 millions de dollars de financement pour l'Ukraine dans un projet de loi sur les dépenses de défense qui fait l'objet d'un débat à la Chambre des représentants. C'est un geste qui n'est pas de nature à plaire à son aile d'extrême droite. Le député républicain Mike Turner était lui aussi l'invité de l'émission This Week sur ABC.
Je m'en prendrai à Kevin McCarthy n'importe quand et nous avons certainement encore du temps devant nous. Mais il est dans une position très difficile parce que les récalcitrants continuent de dire à Kevin McCarthy « Ne présentez pas de projet de loi bipartisan à l'Assemblée. Nous ne voulons pas que vous utilisiez les votes des démocrates pour tenter d'éviter une fermeture, mais ils utilisent les votes des démocrates pour tenter de provoquer une fermeture. » Et ces personnes, ces républicains récalcitrants, votent avec Nancy Pelosi contre les projets de loi républicains qui ont été déposés.
Le parti de McCarthy détient une faible majorité à la Chambre des représentants. Il suffit de 5 transfuges républicains pour faire dérailler toute législation que la majorité tente d'adopter. Les législateurs, qui ont passé le week-end loin de Washington, reviendront demain mardi pour tenter d'éviter une fermeture du gouvernement qui se produira à minuit une le 1er octobre s'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un projet de loi de finances, même à court terme.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro. À la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.